bonjour. Bienvenue dans ce bulletin qui vous est présenté par Nanit Talani depuis Washington. Il est exactement 9h ici à Libreville et Franceville au Gabon. Il est 14h. En Birmanie, des centaines de manifestants pro-démocratie sont sortis dans les rues ce lundi avec des banderoles assurant « Le peuple ne sera jamais vaincu ». Ils protestent malgré la répression meurtrière du week-end, fermement condamnée par la communauté internationale et qui a fait plus de 100 morts, dont plusieurs enfants samedi durant la journée la plus sanglante depuis le coup d'État militaire. Les funérailles des victimes de la répression de ce week-end se poursuivent. L'ONU estime à 107 dans 7 enfants le nombre de morts samedi lors des protestations massives organisées samedi. Les médias locaux font état de 114 morts. La chaîne Miawadi TV, gérée par l'armée, a fait état de 45 morts samedi, justifiant la répression en affirmant que les manifestants avaient fait usage d'armes à feu et de bombes contre les forces de sécurité. La communauté internationale condamne la répression sanglante de ces manifestations de la journée de samedi et la Chine appelle toutes les parties à la retenue. La violence et les heurts sanglants ne répondent aux intérêts d'aucune des parties, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. La Russie a annoncé ce lundi être préoccupée par le nombre croissant des pertes civiles en Birmanie. « C'est terrible », a déclaré dimanche le président américain Joe Biden, ajoutant « c'est absolument scandaleux » et dénonçant des morts gratuites. L'Union européenne, de son côté, avait condamné hier soir une escalade de la violence inacceptable et une voie insensée choisie par la junte dans un communiqué de son chef de la diplomatie, Joseph Borrell, évoquant un jour d'horreur et de honte. Le ministère britannique des Affaires étrangères a conseillé à ses ressortissants ce lundi de partir le plus tôt possible. La Corée du Nord a déclaré aujourd'hui que le Conseil de sécurité des Nations Unies utilisait un double standard après qu'un comité onusien a dénoncé les récents tests de missiles effectués par Pyongyang comme des violations des résolutions de l'ONU. Pyongyang a lancé jeudi un nouveau type de missile tactique à courte portée, poussant Washington à demander une réunion du comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité de l'ONU. En Iran, plus de 1800 détenus, dont 100 condamnés en lien avec la sûreté de l'État, ont bénéficié d'une grâce ou d'une remise de peine à l'occasion d'une fête chiite célébrée ce lundi. Il est extrêmement rare qu'un nombre aussi important de détenus condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État bénéficient de telles mesures en Iran, où les autorités affirment ne pas détenir de prisonniers politiques. En Afrique, la Cour pénale internationale statuera mercredi sur l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, premier chef d'État à être jugé devant le tribunal, accusé de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Près de 10 ans après l'ouverture du dossier, la Chambre d'appel de la CPI pourrait confirmer l'acquittement et ainsi clore l'affaire ou au contraire ouvrir la voie à un nouveau procès souhaité par l'accusation. La procureure générale sortante de la Cour, Fatou Bensouda, a interjeté appel en septembre 2019, 8 mois après l'acquittement, souhaitant un nouveau procès. En Afrique du Sud, une réunion du week-end du parti au pouvoir, le Congrès national africain, a sombré dans le chaos après que le comité exécutif national du parti a décidé que tous les dirigeants du parti, confrontés à des accusations de corruption ou d'autres accusations criminelles, devraient se retirer dans une semaine sous peine des sanctions. La réunion a été si acrimonieuse que le président Cyril Ramaphosa a annulé son discours de clôture habituel. Parmi les personnes qui devraient démissionner ou qui doivent démissionner dans une semaine, figure Assi Magashule, 61 ans, qui a été impliqué dans un scandale corruption en 2014 impliquant des contrats d'audit de maison au toit d'amiante attribués alors qu'il était premier ministre de la province centrale de l'État libre. Le porte-conteneur géant échoué en travers du canal de Suez depuis 6 jours a été quasiment remis à flot ce lundi et a redémarré ses moteurs, ce qui laisse espérer une réouverture rapide de cette voie maritime essentielle. Le Vergiven, un navire de 400 mètres de long, s'est échoué mardi dernier au milieu d'une section sud du canal, voie navigable la plus courte, entre l'Asie et l'Europe. Sur ce, nous mettons un terme à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous dans 55 minutes.
Dieu nous aime. Mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Il fallait être l'ingana pour nous amener à ce pays-là.
Sur terre. Afrique. Dites-le à un ami.